Décryptage, Marie Cazadebé.
L'Inde est entrée dans la dernière ligne droite de son marathon électoral. Dans 10 jours, les bureaux de vote fermeront leurs portes et le 23 mai se dessinera la nouvelle chambre basse du Parlement. Il y a 5 ans, le BJP de Narendra Modi enregistrait une victoire écrasante. Cette fois, il joue plus gros qu'il ne le pensait, même si le Premier ministre indien affiche un optimisme à toute épreuve.
Mon parti, le principal partenaire de notre coalition, devrait obtenir un nombre important de sièges au Parlement et les autres membres de la coalition vont aussi faire un bon score, ce qui nous permettra de former un gouvernement stable pour gouverner pendant les 5 années à venir.
Mais sur quel bilan peut-il se reposer? Narendra Modi a fait prendre un virage politique à son pays, officialisant l'avènement du nationalisme hindou, mais une idéologie ne fait pas manger et ne donne pas du travail. Narendra Modi, 5 ans après, c'est notre décryptage ce jeudi. Bienvenue à tous. Bonsoir Christophe Jaffrelot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CERI Sciences Po, grand connaisseur de l'Inde. Vous venez de publier L'Inde de Modi, c'est aux éditions Fayard. Si on revient à la campagne de 2014, le candidat Modi affichait une attitude très pro-business. L'ambition de créer des emplois, de libéraliser l'économie pour attirer les investissements étrangers. 5 ans plus tard, quel bilan économique peut-il afficher ?
Très contrasté, pour le moins. Contrasté parce que le taux de croissance, lui, reste élevé, en tout cas sur le papier, puisque l'Inde, officiellement, est à 7% de croissance. C'est un chiffre qui est remis en cause aujourd'hui, d'abord qui est dénoncé par des statisticiens, y compris d'ailleurs indiens, et tout récemment... Certains ont démissionné de l'équivalent de l'INSEE en Inde, considérant qu'on ne les laissait pas travailler de manière suffisamment indépendante. Mm-hmm. Donc ce chiffre, il est sujet à caution, mais il est quand même repris, même par le FMI. Et il n'est pas corroboré par d'autres indicateurs qui, eux, sont beaucoup plus négatifs. L'investissement est en panne, la consommation aussi. Et surtout, le marché du travail est totalement atone. Ça, c'est un énorme problème pour Narendra Modi parce qu'il avait promis des jobs. Dans une société, il ne faut jamais l'oublier, où il y a 1 million de demandeurs d'emploi en plus tous les mois.
C'est ça, c'est que 7% de croissance à l'échelle de ce pays continent, finalement, c'est jamais assez pour permettre aux nouvelles générations de trouver un emploi.
Exactement, dans un contexte où on est en fait sur de la croissance sans emploi, hein, parce que si ça n'est pas 7, c'est 5, ça reste de la croissance. S'il y a 5% de croissance en Inde, ça ne peut pas suffire à générer suffisamment d'emplois du fait de la croissance démographique qu'on vient d'évoquer, du fait de l'automatisation croissante aussi de toutes les fonctions et pas seulement dans l'industrie, aussi dans les services. On rentre dans une ère de travail sans emploi à l'échelle du globe, ce n'est pas propre à l'Inde, mais évidemment dans un pays qui a une telle démographie, c'est d'autant plus problématique.
Donc sur le front de l'emploi, on peut le dire finalement une grande déception. Il y a aussi des erreurs retentissantes. Je pense à la démonétisation en 2017. Donc on rappelle que les Indiens étaient appelés au plus vite à ramener dans les banques leurs coupures de 500 et 1000 roupies sous peine qu'ils perdent totalement leur valeur. L'effet a été désastreux. Est-ce que ça pèse aussi sur le mandat de Narendra Modi, puisque ça touche énormément de personnes et leur quotidien, c'est très concret.
Oui, ça touche au principal le secteur informel, qui embauche 90% de la force de travail en Inde, puisque le secteur formel, celle du salariat, ça n'est qu'une infime partie de la société. Alors, ces gens ont été frappés de plein fouet, effectivement, par cette démonétisation. Mais il faut y voir deux effets. L'un, plus modéré, dans certaines catégories de la société qui ont cru au discours de Modi, disant... C'est contre la corruption, c'est pour que l'argent sale sorte du circuit et les riches vont plus souffrir que vous parce que les riches sont plus corrompus que vous. Quand il dit vous, c'est le peuple. Mmh. Et donc là, il y a eu un effet de modération de l'impact. Par contre, il y a tout un autre pan de la société, les paysans en particulier, qui ont été frappés de plein fouet.
Alors justement, il avait promis des jours meilleurs aux agriculteurs. Notre envoyé spécial Christophe Paget s'est rendu il y a une dizaine de jours dans l'Uttar Pradesh, c'est l'état indien le plus agricole, aux abords de la ville d'Unnao, il a constaté la colère des paysans. Écoutez.
Je m'appelle Ramsrou. Nous sommes très déçus. Les 1 500 000 roupies que Modi avait promises à chaque paysan ne sont jamais arrivées. Et il avait aussi promis qu'il augmenterait notre revenu en le multipliant par 1,5. Au lieu de ça, il a été divisé par 2, parce que Modi a augmenté le prix du fertilisant et réduit la taille des sacs.
Que ce soit le parti du Congrès ou le BJP de Modi, ils n'ont pas de plan pour les agriculteurs. Ils ne veulent pas nous aider. Ce qu'ils veulent, c'est donner nos champs aux grosses entreprises. Elles ne produiraient plus de riz ou du blé, mais les semences de riz, les semences de blé, pour les vendre plus cher à travers toute l'Inde et dans le monde entier. Ils veulent faire toujours plus de profits et les fermiers travailleraient dans les fermes de multinationales.
Beaucoup de paysans rencontrés par notre envoyé spécial disaient qu'ils allaient boycotter ces élections. Le poids de l'électorat rural en Inde est très important.
Il est énorme. C'est un pays qui est encore rural à 62% si l'on se fie au recensement de 2011. Même si ce recensement est à prendre avec des pincettes d'un certain point de vue, on ne sait plus trop où s'arrête la ville et où commence la campagne en Inde. Donc la limite urbain-rural devient compliquée. Néanmoins, il est certain que la moitié des Indiens vivent de la terre. Donc c'est un énorme électorat, effectivement, et qui est frappé par une crise structurelle. Et c'est peut-être le plus inquiétant, c'est qu'indépendamment des gouvernements, on a toujours le même problème d'accès à l'eau. L'irrigation est véritablement gênée maintenant par le changement climatique, le changement du régime des moussons et par la baisse des nappes phréatiques qui est catastrophique. Et deuxièmement, c'est une agriculture qui est pénalisée par la fragmentation des terres. La démographie qu'on évoquait, elle se traduit par la parcellisation des exploitations qui fait que parfois on cultive un jardin plus qu'une terre agricole. Alors ceci dit, Modi a aggraver le problème, dès lors que son électorat est plutôt urbain et qu'il a voulu que les urbains n'aient pas à payer leur alimentation plus chère, et donc il a maintenu les prix agricoles très bas, alors que les entrants, les engrais dont vous parle le reportage ou les outils agricoles continuent à se renchérir, le prix de ce que l'on vend sur le marché agricole, lui, baisse tendanciellement. Donc les paysans ont été pris en ciseaux et de fait leur revenu a baissé et il a plus baissé que au cours des 15 dernières années. Ce qui fait que la crise est encore plus aiguë et que l'électorat paysan sera sans doute celui qui boudera ce scrutin plus que les autres, voire votera contre le BJP de Modi.
Alors voilà pour en tout cas les promesses non tenues ou en tout cas déçues. Le bilan maintenant de la politique étrangère de Narendra Modi. Alors le Premier ministre a réalisé 27 déplacements dans les 19 premiers mois de son mandat. Ces chiffres étaient souvent cités par la presse indienne et j'ai retrouvé un article du quotidien français Le Monde daté de janvier 2017 intitulé « Narendra Modi remet l'Inde sur la carte du monde », rien que ça. Alors on est en mai 2019 et arrêtez-moi si je me trompe, Christophe Jaffrelot, mais l'Inde, malgré son 1,3 milliard d'habitants, n'est pas vraiment un poids lourd encore dans les relations internationales.
Non, c'est vrai, mais l'activisme international de Modi a surpris et a certainement séduit en interne. Ce qu'il faut imaginer, c'est l'incroyable publicité, on pourrait dire propagande, autour de cet activisme international. Tous ces voyages qui sont extrêmement médiatisés, qui le voient s'afficher aux côtés des grands de ce monde et l'on invite autant qu'il en visite. Donc on a un effet de loupe grossissante, mais qui sur le fond effectivement est trompeuse. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'Inde pèse davantage, et on peut même dire qu'aujourd'hui elle est plus menacée qu'auparavant, mais pas parce que l'Inde fait des erreurs ou Modi fait des erreurs, mais parce que la Chine prend des positions dans la région Asie du Sud de plus en plus fortes. Il faut bien penser aujourd'hui que Sri Lanka, le Népal, les Maldives, d'autres îles de l'océan Indien sont dominées par les intérêts chinois, et que l'Inde se voit encerclée par la Chine. Alors il y avait le Pakistan qui de toute façon était déjà un allié de la Chine, maintenant il y en a d'autres autour d'elle. Et ça c'est un élément de fragilisation, et en même temps, Modi peut dire, nous sommes vulnérables, Il vous faut un homme fort, je suis celui-là.
Ben, j'allais y venir, puisque vous avez parlé du Pakistan, et là aussi, son mandat aura été marqué par une nouvelle flambée de tensions, assez récente, hein, puisqu'en février dernier, donc une quarantaine de paramilitaires indiens étaient tués dans un attentat dans la partie indienne du Cachemire. Des liens ripostés par des frappes sur un groupe islamiste au Pakistan. Alors, on pourrait voir un échec du gouvernement indien à ramener la paix, ou en tout cas stabiliser la région, et pourtant... Aujourd'hui, c'est un argument de campagne pour le BJP. Alors comment Narendra Modi et son parti arrivent à retourner la situation ?
C'est tout son talent, je dirais, cette capacité à rebondir et à renverser les situations. Effectivement, il y a eu une série d'attentats. Celui-ci est le dernier en date. Mmh. Mais il y en a eu à Pathankot, il y en a eu à Uri, il y en a eu... pratiquement tous les ans, faisant des dizaines de victimes, montrant que les services de renseignement n'étaient pas à la hauteur du défi. Le défi, il est vrai, est considérable, car infiltrer la ligne de contrôle au Cachemire n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser à première vue. Mais néanmoins, il y a échec. En tout cas, il n'y a pas d'amélioration de la situation de ce point de vue-là. Et Modi en tire au contraire, paradoxalement, argument pour dire c'est bien la preuve qu'il faut un homme fort. Alors, dans le cas le plus récent de l'attaque de février dernier, le fait est que sa réaction est sans précédent. Il envoie des avions frapper le Pakistan au-delà des régions en litige. Il va... jusque dans la zone Pashtoun du Pakistan, avec ses avions, en tout cas, il les y envoie. Et c'est du coup un titre de gloire qu'il s'attribue. Voilà, j'ai osé. Personne n'avait osé avant moi. Donc,
Et ça met bien, en tout cas, en exergue et en lumière les ennemis de l'Inde, puisque aujourd'hui, on voit bien. Alors, il y a 5 ans, il y avait des promesses, notamment de développement, de jours meilleurs, des promesses économiques. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce discours-là. On est dans le discours de, bah si, la promesse, alors ça va être de protéger le pays donc de ses ennemis, ennemis extérieurs, le Pakistan, mais aussi, évidemment, les ennemis intérieurs. Alors ça, c'est toute la politique de Narendra Modi, ce fameux nationalisme hindou. Les ennemis, ce sont les minorités, et pourtant, les hindous, c'est une majorité écrasante en Inde. Alors comment une majorité peut-elle se sentir aussi fragile ?
Ça nous renvoie aux origines même de cette idéologie qu'on voit se cristalliser dans les années 20, comme par hasard. C'est le nationalisme ethnique hindou qui se crée en réaction au panislamisme. Dans les années 1919-1920, on voit un mouvement panislamiste se mettre en place pour défendre le califat de Constantinople. Et en réaction, les hindous se découvrent, entre guillemets, divisés en castes, en sectes, face à un islam qui est beaucoup plus monolithique à leurs yeux, et puis transnational. Donc avec des bases arrières qui vont très loin dans le Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là que se crée une idéologie de réaction, de défense des hindous, mais aussi de lutte contre les minorités. Et les minorités musulmanes sont les premières visées, mais les chrétiens le sont aussi du fait du prosélytisme des missionnaires qu'on leur attribue, et parfois à tort, mais souvent à raison.
Donc paradoxalement, les hindous sont les plus nombreux, mais ils n'arrivent pas à se sentir faire une force compacte, finalement, face à une toute petite minorité.
Tout à fait.
Il n'y a pas de bloc.
J'ai appelé ça le complexe d'infériorité majoritaire. On peut être majoritaire et se sentir quand même en situation de vulnérabilité. Alors, ceci dit, c'est un sentiment qui est aussi instrumentalisé. Il est évident que les entrepreneurs politiques de ce parti de Narendra Modi exploitent, exacerbent, exagèrent la menace musulmane.
Oui, il existe tout un récit, évidemment. Alors, dans la pratique, maintenant, la législation a pu évoluer en 5 ans, hormis sur le statut de la vache, donc animal sacré pour les hindous. Un décret fédéral interdit le commerce de bovins destinés à l'abattage et donc, de facto, la consommation de la viande de bœuf. Les vaches sont donc plus que jamais intouchables. Aux grandes dames des agriculteurs, et un témoignage encore dans l'Uttar Pradesh, recueilli par Christophe Pagé.
Voici un de mes champs. J'ai mis des barbelés autour de mes cultures il y a 4 mois. Les barbelés m'ont coûté 20 000 roupies. Mais je ne gagne pas assez pour compenser ce coût. Mes pertes sont énormes. Je vends mes tomates à 10 roupies le kilo. Ça devrait être au minimum 25 ou 30 roupies le kilo. J'en ai vraiment assez de ces vaches en liberté. Elles mangent nos cultures et les détruisent. C'est une véritable calamité qui nous est tombée dessus depuis que le gouvernement Modi et Yogi Adityanath sont en place.
Donc je disais, hormis ce décret sur les bovins, la législation a très peu évolué, la constitution indienne n'a pas changé. Alors comment ce suprémacisme hindou prôné par Narendra Modi se traduit-il envers les minorités et surtout les musulmans et les chrétiens ?
À travers ce que sur place on appelle le vigilantisme hindou, c'est un anglicisme, nous on parlerait plutôt de police culturelle, de mise au pas des minorités, par des mesures d'intimidation qui sont le fait de milices, de groupes civils, mais armés, et qui font en sorte que les musulmans, par exemple, ne fréquentent pas des hindous, eux, que les hommes musulmans ne fréquentent pas des femmes hindoues.
Pour éviter les mariages mixtes.
Pour éviter les mariages mixtes, notamment sur les campus universitaires. Qui fassent en sorte aussi qu'il n'y ait pas de musulmans qui viennent habiter dans les quartiers mixtes. Et puis, plus important encore, cela se traduit par des patrouilles qui fouillent les camions susceptibles de transporter des bovins que peut-être des chauffeurs musulmans amèneraient à l'abattoir. Et donc, on a eu, depuis maintenant 2015, une série de lynchages de musulmans accusés d'amener des bêtes, des bovins à l'abattoir. Et ça, c'est quelque chose qui a des effets en cascade. On en parle dans les milieux musulmans, on sait que ça a eu lieu. Et donc même s'il n'y a pas plus d'une cinquantaine de lynchages par an, ça a des effets à l'échelle de tout le sous-continent.
Quand vous parlez de milices, est-ce qu'elles ont un statut officiel? Et quand vous parlez de lynchage, est-ce que leurs membres sont amnistiés ou sont... On ne regarde pas, en tout cas on tourne la tête.
Alors, pour la première question, elles ont un statut officiel au sens où elles sont organisées, elles sont reconnues, elles ont des noms. Le Bajang Dal, par exemple, qui est un des mouvements les plus actifs dans le Nord. Oui, elles existent. Elles sont enregistrées, je dirais, auprès de l'État. Maintenant, effectivement, l'État les laisse opérer sans les mettre à l'amende. À la limite, ce sont les victimes qui sont inquiétées et qui sont accusées d'avoir provoqué la réaction légitime de défense de l'hindouisme. C'est là où légalité et légitimité finissent par être dissociées. Ces milices sont dans l'illégalité. Elles assassinent des innocents. Mais leur cause est tellement légitime, voire sacrée, qu'elles peuvent, en quelque sorte, agir en toute impunité.
Pour en revenir aux élections donc qui se déroulent actuellement, à quel point l'idéologie du nationalisme hindou est partagée en Inde quand on fait le poids entre cette idéologie et finalement le bilan qu'on a tiré un petit peu plus tôt du mandat de Narendra Modi?
C'est ce que nous dira le résultat des élections.
Aucune idée pour l'instant.
C'est très difficile de savoir ce que les gens pensent. Vous savez, depuis 5 ans, on dit de moins en moins ce qu'on pense. On voit une forme d'autocensure se développer, dans les médias d'abord, mais dans la société en général. Donc, on ne peut plus se fier aux sondages comme avant. On a le sentiment que l'échec économique pèse sur le bilan et devrait faire perdre sa majorité au BJP. Mais on n'est pas du tout certain que ceci n'est pas contrebalancé par le discours sécuritaire, qui est asséné, ça sature l'espace public littéralement, et d'autre part que ce majoritarisme, ce suprémacisme hindou ne trouve pas un écho, y compris dans les couches populaires. Donc ces élections, le verdict, les résultats, seront une forte indication de ce degré de pénétration d'une nouvelle forme de xénophobie dans la société indienne.
Résultat donc annoncé le 23 mai. Les électeurs ont encore 10 jours pour se prononcer et donc terminer ce marathon électoral. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot. Je rappelle le nom de votre ouvrage, L'Inde de Modi. C'est aux éditions Fayard. Et merci à toute l'équipe de Décryptage. Louise Calédec, Simon Carteret, Eugénie Ducré, Hélène Avril à la réalisation. Tout de suite un nouveau journal sur RFI.